Frères et sœurs, bien-aimés, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix règne dans vos cœurs. Voici venu le moment d'écouter la parole de Dieu. Mais auparavant, prions pour lui demander de l'intelligence. Dieu de paix, de miséricorde et d'amour, nous sommes de nouveau devant ta face comme des enfants. L'heure est venue où nous voulons écouter tes instructions. Transforme-nous, ô Seigneur, par ta parole, afin que nous soyons toujours de nouvelles créatures dans ce monde, portant sans cesse le flambeau de ton règne. Et nous ne pouvons l'être qu'à partir du moment où ta parole nous pénètre de toutes parts. Au moment où nous avons encore les regards tournés vers le Sinaï, vers l'Égypte, que ta parole nous oriente vers Jérusalem, vers le monde à venir, et que nous sachions, dans la confiance, traverser le désert. Choisis pour demeure nos cœurs, afin que nous soyons un temple pour toi dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu telle qu'elle nous est adressée dans l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 31. Marc 10, 17 à 31. Là, il est écrit. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qui sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ?» Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen.
Thank you. tout à l'heure, j'étais surpris de constater que vous terminez avec moi le dernier verset. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est intéressant ou bien parce qu'il est dangereux ou si ça fait beaucoup réfléchir. De toutes les façons, entrons dans tous les textes et méditons ensemble. Le récit qui parle d'un homme riche est raconté par les trois évangélistes, à savoir les trois premiers évangélistes, à savoir Matthieu, Marc et Luc. C'est dit l'importance que ce récit revêt aux yeux de ces évangélistes. Ce récit commence par comme Jésus se mettait en chemin. En effet, notre Seigneur est toujours en route pour Jérusalem, comme dimanche dernier. Là-bas, à Jérusalem, il va être cloué à la croix pour le salut de l'humanité. Il est donc en train d'effectuer son dernier voyage sur la terre et dans cette ville sainte. Au cours de ce voyage, il s'arrête de temps en temps pour guérir les malades, enseigner les gens, surtout ses disciples. Notre récit se situe au moment où il vient de terminer un enseignement sur le mariage, comme nous l'avons suivi dimanche dernier. Il vient de terminer un enseignement sur le mariage et le divorce et l'attitude à avoir pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il se remet en route. Quand il se remet en route, un homme accourt, l'interpelle, tombe à genoux devant lui avant de poser une question qui lui brûle les lèvres. Matthieu précise que c'était un jeune homme et il a de bonnes et sérieuses raisons de le dire. En effet, tous les caractères d'un jeune se rencontrent chez lui. L'enthousiasme qu'il montre en rencontrant Jésus, il vient en courant, son zèle religieux et son effort très sérieux pour se surpasser lui-même dans la pratique de la foi juive. Ce jeune homme fortuné s'acharnait à accomplir la loi, mais il n'était pas satisfait. Malgré tous ses efforts pour plaire à Dieu, il n'était pas sûr d'avoir la vie éternelle. On peut se poser la question de savoir d'où ce jeune homme riche venait juste en ce moment où Jésus venait de terminer un enseignement sur l'attitude à avoir pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'était même un grand personnage dans la société. C'était un chef, comme précise Luc. Aucun des évangiles ne nous permet de satisfaire notre curiosité. Ce n'est d'ailleurs pas indispensable de le savoir, de savoir où venait cet homme pour comprendre la leçon que renferme le texte de l'évangile selon saint Marc qui nous intéresse. Penchons-nous plutôt sur la question du jeune homme. La réponse de Jésus, la réaction du jeune homme et des disciples. Avant de répondre à la question du jeune homme, Jésus tient d'abord à donner un éclaircissement sur le qualificatif « don » qu'il a employé pour le désigner. Il n'y a de bon que Dieu. Il n'y a de bon que Dieu seul, dit-il au jeune homme. L'adjectif « bon » appartient donc exclusivement à Dieu. Jésus le mérite parce qu'il est plus qu'un rabbi. Il est Dieu fait homme pour nous sauver. Après cet éclaircissement, Jésus revient sur le terrain de l'homme, c'est-à-dire la loi, qu'il pensait pouvoir accomplir au point de rechercher quelque chose de plus. Peut-être a-t-il effectivement réussi à se conformer au commandement que Jésus a mentionné. Mais ces commandements ne relèvent que du deuxième tableau du Décalogue. Le Décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, qui a 2 tableaux. Le premier tableau a 4 lois qui concernent notre relation avec Dieu. Et le deuxième tableau a 6 commandements qui concernent les relations entre les hommes. En toute quiétude, le jeune homme riche, interrogé par le maître, s'est empressé de répondre à Jésus. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Vous comprenez donc que c'était un juif pieux. Un juif qui essayait d'entretenir une bonne relation avec Dieu, d'obéir à Dieu et à sa loi. Alors, si c'était un pieux, que voulait-il donc de Jésus? Peut-être il lui exigeait une œuvre plus difficile qui augmenterait ses mérites pour avoir la vie éternelle, ou qui suppléerait à ce qui pouvait éventuellement lui manquer. En tout état de cause, la réponse du jeune homme riche a suscité un intérêt certain de la part de Jésus. Et en parfait connaisseur de l'homme, il a su qu'il manquait quelque chose à ce jeune homme. Il s'était conformé au commandement réglant les relations humaines. Il se serait même soumis aux prescriptions supplémentaires que les pharisiens ajoutaient à la loi de Dieu. Mais Jésus va rabaisser son orgueil en mettant le doigt sur son idole. En effet, ses richesses constituent son idole. Et Jésus lui demande d'aller les vendre sans rien laisser et venir le suivre pour avoir un trésor dans le ciel. Cette parole, on pourrait dire autrement, cette parole de Jésus, on pourrait dire que il faut qu'il se charge de sa croix pour suivre Jésus. En parlant ainsi, non seulement Jésus a mis le doigt sur l'idole de l'homme fortuné, mais aussi il a montré l'obstacle qui le sépare du royaume de Dieu, son amour des biens terrestres, son attachement à l'argent, qui prouve qu'il en tire l'orgueil, la fierté pour avoir réussi, la sécurité. Et cette attitude l'empêche de respecter le premier commandement du premier tableau du Décalogue. Le premier commandement de ce tableau dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant face. L'obéissance, il faut le dire, l'obéissance à ce commandement peut seul permettre d'obéir véritablement aux autres commandements. Celui qui n'aime pas véritablement Dieu et sera incapable d'aimer son prochain, d'obéir en tout cas aux autres commandements. Mais l'homme riche était incapable de l'observer parce qu'il mettait sa confiance dans les richesses terrestres. Et vous, quelle est la place des richesses dans votre vie? Peut-être que vous n'êtes pas riche, mais chacun de nous a des choses qui lui coûtent cher. Quelle est la place de ces choses-là dans votre vie? Il faut suivre Jésus en étant capable de tout abandonner. Sinon, on ne le suit pas véritablement. Le jeune homme riche a donc été choqué par l'intervention de Jésus qui lui dit de tout vendre. Pour lui, vendre tout signifie qu'il est déjà mort. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il tourne le dos. Il s'en va sans même plus regarder derrière. Et Jésus lui dit, après son départ, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai. L'argent ouvre toutes les portes. Il engendre l'orgueil, la suffisance, le mépris des autres. Et beaucoup de riches le deviennent en sacrifiant leurs propres enfants, leurs parents, ou en obéissant à toutes les propositions que le diable fait aux hommes pour être riches. Je veux citer quelques-uns. Entrer dans les loges et devenir magicien, rosicrucien, franc-maçon, homosexuel, lesbienne et beaucoup d'autres pratiques que le diable invente pour maintenir les gens derrière lui afin qu'il l'accompagne dans le feu qui ne s'éteint jamais lorsque Jésus va arriver. Beaucoup de riches réalisent des œuvres sociales, bien entendu, mais souvent pour être vénérés et non par amour des hommes. Certains chrétiens riches ne croient qu'avec les bonnes œuvres, car ils construisent même des temples, mais ils ne craignent pas Dieu. On a vu des chrétiens riches qui sont aussi dans les loges, qui sont aussi rosicruciens ou francs-maçons. C'est vrai. Ne vous étonnez pas. Ça existe. Nous le savons. Bien sûr que l'argent n'est pas mauvais en soi. Mais c'est l'usage qu'on en fait. C'est l'usage qu'on en fait qui peut être détestable. Nous avons tous besoin de l'argent. Je crois que c'est ce que vous allez me dire, bien entendu. Je suis d'accord avec vous. Nous avons tous besoin de l'argent, même moi. Parce que nous avons besoin de l'argent pour les soins médicaux, pour nous loger, pour l'éducation des enfants, pour faire avancer même l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas encore fait tomber l'argent du ciel en billets craquants, n'est-ce pas? Ça viendra toujours de nos poches. Nous avons donc besoin de l'argent. Mais il faut mettre l'argent à sa place. L'argent doit être un instrument et non quelque chose qui nous assujettit. Lorsque Jésus dit qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, les disciples sont étonnés. Alors il précise, Jésus précise son idée en disant qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui se confient dans les richesses, qui ont fait des richesses leur idole, qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. L'image grotesque du chameau qui peut passer plus facilement par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu montre que pour parvenir à la vie, il faut se débarrasser de toute entrave, puis suivre Jésus avec persévérance. Il faut suivre Jésus avec persévérance. Parce qu'on a vu des gens commencer à abandonner. Être fier dans leur situation, dans la situation qu'ils ont actuellement, après avoir abandonné. C'est pourquoi c'est possible que les derniers deviennent les premiers. Et les premiers, les derniers. Alors, qui peut donc être sauvé? Si Jésus exige tant de sacrifices, et Jésus de répondre aux disciples qui s'interrogeaient ainsi entre eux, tout est possible à Dieu. Dieu est capable d'amincir le chameau jusqu'à ce qu'il passe par le trou d'une aiguille. Il faut seulement lui faire confiance et lui obéir en tout. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, ce que nous devons faire. Il y a une autre question que l'intrépide Pierre pose au Seigneur. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Sous-entendu, qu'en sera-t-il de nous qui t'avons suivi? La réponse de Jésus est claire. Il est vrai qu'il ne faut pas suivre Jésus par intérêt. Mais étant donné que tout vient de Dieu et lui appartient, là où il y a des vrais enfants de Dieu, rien ne manque à ceux qui ont tout quitté pour suivre Jésus-Christ, pour le servir et servir les hommes. Quand on a tout quitté pour servir Jésus, on retrouve avec lui tout, puisque tout vient de lui. Des maisons, des frères et sœurs, des mères, des pères, et en plus, la vie éternelle. Quel bonheur! Même si les persécutions sont au rendez-vous, il faut le dire, on est comblé quand on est avec Christ. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur le Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole vivante et efficace. Cette parole qui est capable de nous changer, de faire de nous tes vrais enfants, et de nous préparer à vivre pour toi. Au point d'attendre avec joie le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous prendra pour aller au ciel avec lui. Seigneur, donne-nous d'être de ceux-là qui sont capables de tout abandonner pour te suivre. Donne-nous d'être de ceux-là qui n'attendent que tu demandes quelque chose pour nous mettre en route, pour donner. Et même qui n'attendent pas forcément, mais qui regardent ce qui manque dans ta maison. Ce qu'il faut faire pour que ton règne avance, pour nous mettre à l'œuvre. Seigneur, aide-nous à te servir comme cela se doit. Donne-nous de ne pas ressembler aux jeunes hommes riches, mais plutôt à ceux qui sont prêts à te suivre, même s'il faut tout abandonner. Au nom de Jésus-Christ. Amen.